L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est sa première radio, web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière et immobilière. Et ça tombe bien, pour cette première émission de l'année, on va s'intéresser aux marronniers du même moment ou investir en 2022. Après une année 2021 record sur les marchés financiers, le CAC termine sur un plus haut de l'année et une hausse de près de 30%. Et également sur le marché immobilier, nombre record. Record de transactions, 1,2 million, forte hausse des prix, taux d'intérêt au plus bas. À quoi s'attendre pour 2022? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine.
Bonjour Fabrice.
Directrice des études Vous Financez. Et également Wilfried Gallon. Bonjour Wilfried.
Bonjour Fabrice.
Stratégie chez Montpensier Finance. Voilà, on aura le meilleur de l'immobilier, le meilleur de la finance. L'Hebdo Patrimoine, c'est parti.
L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Chers amis, bonne année tout d'abord. Voilà, tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022 qui commence, Wilfried, de manière un peu compliquée. Là, on a cette résurgence du variant qui touche quand même beaucoup de gens. Est-ce que ça inquiète? Est-ce que ça inquiète les marchés? Vous n'êtes pas inquiet à titre personnel.
Mais paradoxalement, c'est pas ça qui inquiète les marchés. Ce qui inquiète les marchés, c'est de savoir quelle va être la réaction d'abord de la Réserve fédérale et puis plus généralement des banques centrales et des pouvoirs publics à ce nouveau contexte. Donc, en fait, ils ont commencé l'année sur les deux, trois premiers jours en disant finalement, on a un super équilibre. Le variant, c'est peut-être pas si grave que ça. Ça va permettre aux banques centrales d'être peut-être un petit peu plus prudentes. De toute manière, les États vont continuer à avoir une politique quand même assez expansionniste. Et comme les entreprises savent s'adapter en plus à tout ça, ça va nous faire une super année. Et puis on voit qu'au fur et à mesure du temps, effectivement, c'est cet équilibre est de plus en plus mis en question. C'est-à-dire qu'on voit que quand on regarde les discussions qui ont lieu à l'intérieur des comités de politique monétaire des grandes banques centrales, on a des discussions sur comment plutôt resserrer davantage et plus vite les politiques monétaires extraordinairement accommodantes qu'on a connues. Ça inquiète quand même les investisseurs. On voit que le variant, certes, se répand très vite, pourrait être moins grave, mais on ne sait pas exactement quel va être l'impact sur le reste de l'économie. Pour l'instant, ça tient bien. Il y a cette espèce d'inquiétude sur quelles vont être finalement la réaction des différents acteurs économiques. On sait qu'on a un véritable sujet là en ce moment depuis quelques semaines, quelques mois, sur les approvisionnements, sur les différents goulets d'étranglement, sur l'impact sur l'inflation. Est-ce que ça va accélérer tout ça? Parce que finalement, il va y avoir des perturbations. Est-ce qu'au contraire, l'effet peut-être plus attentif sur la demande va permettre de fluidifier les choses? Tout ceci, ça demande un peu réflexion. Et on sent que les marchés se posent beaucoup de questions. Ils ne savent plus exactement sur quel pied danser. Et puis, on va voir effectivement comment les banquiers centraux vont réagir. Mais ça, ce ne sera pas avant la fin janvier.
D'accord. Donc, pour vous, le principal, c'est voir vraiment ce que vont faire les grandes banques centrales, les grands argentiers. Ouais. On sait qu'avec cette crise, ils ont inondé le monde de milliers de dollars, d'euros, de yens, etc. Et ça a profité quand même à cette bourse. C'est vrai que ceux qui sont sur les marchés financiers, les clients sont plutôt contents après ces deux années finalement Covid, 2020, mais surtout 2021, progression exceptionnelle, CAC plus 30%.
Enfin, ils sont contents quand ils sont restés investis au cœur de la crise, parce que certains effectivement ont craqué. Heureusement, la plupart, c'est pas le cas. Ouais. Mais effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même quand on regarde un peu l'histoire. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les marchés se comportent. Les marchés, dans une période de restriction de liquidité, ne réagissent jamais bien. C'est-à-dire que lorsqu'on parle en particulier au niveau des banquiers centraux, vous savez, il y a trois grands éléments de la politique monétaire. Il y a le niveau des taux d'intérêt, il y a le niveau des injections de liquidité, du volume de liquidité supplémentaire qu'on injecte sur les marchés, et puis il y a le stock de liquidité. Est-ce qu'on restreint ou pas le stock de liquidité sur les marchés? Ces trois éléments-là. Quand on parle de restreindre sur les trois pans, sur les trois axes, à la fois les taux, le niveau des liquidités supplémentaires, voire restreindre le niveau des liquidités existantes sur le marché. Là, historiquement, ça ne se passe jamais très très bien sur les marchés parce que les coûts de financement remontent, parce qu'il y a moins d'acheteurs tout simplement sur les marchés. Il faut savoir que les banquiers centraux sont dans ce cas-là les premiers acheteurs un peu du bas de la pyramide des marchés, hein, c'est-à-dire les titres des dettes d'État, les principales grandes entreprises se financent beaucoup plus facilement. Si on enlève ces acteurs-là sur le marché, voire si ils redonnent des titres sur le marché, ils n'en prennent pas, ils en redonnent. Dans ce cas-là, effectivement, au niveau des prix, ça a un impact. Ça, il faut suivre ça de façon très importante. L'impact économique est très important aussi, mais c'est plus à moyen terme. Là, à court terme, ce qu'on va véritablement regarder, c'est est-ce que ça ne va pas être une année pivot, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, un double pivot ? C'est-à-dire, là, en ce moment, on a un pivot plus restrictif de la politique monétaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... Ensuite, parce qu'on aurait un ralentissement économique, parce qu'on aurait justement une inflation qui baisserait extrêmement rapidement, parce que les effets de base seront différents, un autre pivot. Et donc, dans ce cas-là, les marchés devront de nouveau s'adapter. Ouais. Ça va être, je pense que pour moi, le mot-clé de cette année 2022, c'est pivot. Peut-être pivot vaccinal, pivot économique, pivot monétaire. Voilà, on sent que voilà, les axes bougent beaucoup. Puis en plus, en France, on parle beaucoup de pivot politique. Donc ça va être...
On verra aussi...
Voilà, ça va être véritablement un axe très important.
C'est intéressant parce que ce que dit Wilfried Angot, c'est qu'on va surveiller finalement cette peut-être remontée des taux. Hein,
si
les banques centrales serrent la vis. Et là, ça fait le lien avec l'immobilier. Ça a un impact direct. On sait, Sandrine Allenier, que les taux sont à des prix toujours, enfin des niveaux historiquement bas. Est-ce que ça pourrait changer ? Est-ce qu'on pourrait là aussi observer un pivot en 2022 ?
Oui, alors c'est pareil, on se pose un petit peu les mêmes questions. C'est vraiment les mêmes fondamentaux qui vont aussi animer finalement le marché immobilier cette année. Et il y a plusieurs éléments intéressants sur lesquels je peux rebondir. Il y a le problème aussi de manque de visibilité. On ne sait pas si l'économie va redémarrer comme elle l'a fait en 2021. Est-ce que de nouveau, il pourrait y avoir un coup d'arrêt ? Donc ça, c'est jamais bon, le manque de visibilité. Mais en même temps, du coup, ça remet la pierre au centre des envies des Français et comme vraie valeur refuge. Et je pense que ça a été l'un des piliers de l'année 2021, c'est que les Français ont eu envie d'habiter mieux, dans des logements plus qualitatifs, dans des endroits où ils pouvaient avoir plus d'espace, mais également ils ont eu envie d'investir, puisque les investisseurs, ça a été 30% des acheteurs en 2021. Donc il y a vraiment eu ce côté valeur refuge de l'immobilier à côté d'une volatilité boursière ou de crypto-monnaies qui ne séduisent pas tout le monde. Tout le monde évidemment se lance pas là-dedans. Donc il y a ce côté sécuritaire de la pierre qu'on va de toute façon sûrement retrouver. Et en ce qui concerne les taux d'intérêt, c'est en effet une vraie interrogation, mais ça l'est moins qu'il y a quelques années, à cause justement de cet excès de liquidité. Je m'explique, il y a quelques années, les banques suivaient strictement l'évolution des OAT 10 ans, enfin des taux d'emprunt d'État, mais parfois également de la politique de la Banque Centrale Européenne. Là, il y a un tel excès de liquidité dans l'économie que les banques doivent placer. Et en fait, tant que le taux de dépôt reste négatif à la BCE, pour les banques, l'immobilier offre le meilleur couple rendement-risque. D'accord. C'est-à-dire que certes, ça leur rapporte peu le crédit immobilier, mais c'est très peu risqué. Même on a vu sur ces deux années de crise, il y a un taux de défaut des crédits qui reste le plus bas d'Europe. Donc elles veulent continuer à prêter. Elles ont les mêmes objectifs de production de crédit que l'année précédente, l'année 2021, qui a été une année record, avec 273 milliards d'euros de production de crédit contre 250 l'année précédente. Donc elles veulent prêter et du coup, elles vont être obligées de maintenir un peu les taux bas. Donc je dirais que ce contexte d'excès de liquidité les conduit à finalement laisser prédominer leur politique commerciale par rapport aux stratégies financières qu'elles pourraient avoir.
C'est intéressant de savoir que les banques justement continuent à gagner de l'argent. On disait à un moment, mais elles ne gagnent plus rien, ça devient très très compliqué pour elles. On voit d'ailleurs, que le secteur d'une manière générale vient de toucher un nouveau record depuis 2018. Ouais. Les banques se redressent.
Alors en fait, pour les banques, ce qui est très important, c'est d'avoir ce qu'on appelle une courbe des taux d'intérêt, c'est-à-dire en fait une différence assez nette entre les taux d'intérêt à court terme et les taux d'intérêt à long terme. Et ce qui a énormément atteint la profitabilité des banques, c'est d'une part, on avait quand même eu une avoinée réglementaire absolument monstrueuse en quelques années. Donc ça, c'est effectivement, ça n'a pas aidé sur les ratios de coûts, sur la capacité de développer tout simplement du business. Ça a été très difficile. Et puis, on avait cette espèce de courbe assez plate, c'est-à-dire qu'on avait effectivement des taux d'intérêt court terme qui étaient négatifs, soit à zéro, soit négatifs, puis des taux d'intérêt long terme qui étaient extrêmement faibles. Hein. Pendant très longtemps, on a eu des taux d'intérêt de la dette française à 10 ans qui étaient négatifs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on avait des taux qui étaient négatifs. spéculatif. Donc pour les banques, c'est extrêmement difficile parce que leur rôle, c'est de transformer le risque. Leur rôle, effectivement, c'est de transformer le risque avec des ressources qu'elles ont à court terme pour prêter à long terme, typiquement dans l'immobilier, en gérant effectivement leurs différents risques à l'intérieur du bilan. Dès lors que tout est écrasé, dès lors que le prix du risque et le prix du temps n'existe plus, parce que c'était ce qu'on avait en fait. On n'avait plus de prix du risque, plus de prix du temps. Dès lors qu'on retrouve un petit peu ces fondamentaux-là, pour les banques, c'est plutôt bon. Et en plus, on s'est aperçu de façon concomitante que quand même, il y a eu un certain retour à la raison, comme quoi tout est possible, hein, d'un certain nombre d'autorités réglementaires disant « on va peut-être arrêter de taper sur ces pauvres acteurs bancaires, peut-être qu'on a quand même besoin de banques en forme. Et en particulier, peut-être qu'on a besoin en Europe de banques qui soient capables de tenir un peu la dragée haute, ou en tout cas de parler correctement sur un bon niveau avec leurs homologues américaines qui ont beaucoup moins souffert de la pression réglementaire. » Donc tout ceci effectivement a fait que le secteur bancaire retrouve un peu des couleurs et n'est plus aujourd'hui le vilain petit canard sur lequel effectivement on dit « non mais il ne faut surtout pas y aller parce qu'il y a une telle incertitude ». Ça redevient un secteur classique et comme les valorisations sont très très faibles encore, effectivement on a une espèce de retour à la moyenne.
D'accord, donc moins de réglementation. Les taux, justement, on en parlait, c'est quoi, tiens, le taux moyen, là, si en début d'année 2022, on a des projets, on peut se financer à combien
Alors là, les banques ont légèrement rebaissé leurs taux, en tout cas celles qui les avaient remontés en fin d'année. Ça montre bien que là, elles ont une vraie volonté de capter des nouveaux clients et de réaliser leurs objectifs tôt sur le début de l'année. On est sur des taux moyens à 1% sur 15 ans, 1,15% sur 20 ans et 1,40% sur 25 ans. Mais avec un très bon dossier, donc peu risqué pour les banques, on est à moins de 1% sur toutes les durées. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même...
Le très bon dossier, c'est quoi? CDI depuis longtemps?
Voilà, CDI. Ça, en couple, ça peut aider aussi puisque ça diminue le risque. De préférence, moins de 35 ans. Puisque ce que veut la banque et ce avec quoi elle va gagner de l'argent, c'est la relation de long terme qu'elle va pouvoir mettre en place avec le client. Donc s'il n'est pas déjà bancarisé, il y aura plus de potentiel pour la banque. Et des revenus quand même élevés, plus de 80 000, plus de 100 000 euros. Ça, c'est vraiment un très bon dossier. Et 10% d'apport personnel. Parce que ce qui va quand même... et je tempérerai un peu mon optimisme, ce qui va quand même un peu réguler un peu quand même le marché. Enfin, en tout cas, on parle encore de réglementation, mais c'est quand même le Haut Conseil de stabilité financière qui rend normes juridiquement contraignantes sa recommandation. Ça veut dire que les banques font du crédit encadré. Elles doivent prêter à moins de 35% d'endettement sur moins de 25 ans de durée de prêt. Strict, avec quand même une marge de flexibilité de 20%. Donc il y a un dossier sur cinq qui peut y déroger, mais cette marge doit être réservée à 80% à des acheteurs de résidence principale. D'accord. Donc on voit bien quand même que les banques doivent être attentives au profil. Et donc finalement, on va avoir des taux qui vont être finalement très différents en fonction des profils. Elles vont toutes vouloir capter les clients qui rentrent dans les critères du Haut Conseil. Du coup, la concurrence interbancaire est très forte et c'est pour cela qu'on a les taux les plus bas. Et puis les autres qui vont avoir plus de difficultés à trouver un crédit, notamment les investisseurs. Et ça, ça va quand même être problématique puisque c'était 30% des acheteurs en 2021. En 2022, voilà, quid de cette partie quand même des investisseurs? Où vont-ils investir s'ils ne peuvent pas investir là? En plus, ils vont devoir faire beaucoup de travaux de rénovation énergétique dans les années qui viennent. Donc je dirais que le petit point d'attention, il va être sur cette frange d'emprunteurs.
Donc feu vert, si j'ai bien compris. Si on a des hauts revenus, un métier stable, bref, si on est déjà riche, ça se passe très bien. Voilà. Si on a un dossier plus compliqué, on trouve des taux peut-être un petit peu plus élevés. Et puis surtout, il faut essayer de faire le tour des banques ou s'aider justement de vos solutions.
Mais surtout, le gros sujet qu'il va y avoir pour les ménages un peu plus modestes, ça va être en lien avec la hausse des prix très forte qu'on a connue sur l'année 2021. On a quand même des villes moyennes qui ont connu en 2 ans des hausses de prix de 20%. Mmh. Ce que j'appelle les villes cathédrales, Reims...
Orléans, Chartres.
Voilà, exactement. Donc toutes ces grandes villes-là qui étaient encore accessibles pour les primo-accédants, qui pouvaient acheter quasiment pour le prix d'un loyer avec une mensualité équivalente, là aujourd'hui, eux vont avoir des difficultés et ne vont pas pouvoir s'endetter au maximum ou allonger la durée des crédits. Mmh. Et il va falloir qu'ils mettent aussi un apport plus conséquent en face. Donc là aussi, si jamais les taux remontent, on risque justement de se retrouver dans un étau, puisque j'ai quand même parlé de hausse modérée des taux, voire pas de hausse, mais il est possible qu'en effet, avec l'inflation et quand on aura plus de visibilité sur la politique des banques centrales, les taux remontent mais de l'ordre de 0,25 point, donc on passerait de 1,15 en moyenne sur 20 ans à 1,40, ce qui ne serait pas de nature à venir pénaliser les emprunteurs parce que ça fait seulement 22 euros de plus par mois pour un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, c'est absorbable.
Quand on passe de
1,15 à 1,40.
1,15 à 1,40. C'est ce qui se passe quand on a ce fameux tour de vis, là. On parle de quart de point, enfin, voilà, parce qu'ils ne font pas des, quand même des 0,033, des choses très... C'est toujours 0,25 points, enfin 25 points de base. Ouais, ouais. C'est ça à peu près. Qu'est-ce qu'on anticipe là sur l'année quand vous nous parliez, tiens, peut-être ce pivot et des banquiers centraux?
Oui, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la Réserve fédérale donne une plage de taux d'intérêt. Alors effectivement, pour simplifier les choses, on parle de quart de point en quart de point, ce qui est une façon très, très américaine de compter. Hein. C'est comme le quarter, la pièce américaine. Et effectivement, ce que les marchés aujourd'hui ont intégré dans leur scénario, c'est 3 hausses de taux aux États-Unis cette année. Donc 3 hausses de taux, ça veut dire 0,75%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur une plage de taux aux États-Unis entre 0 et 0,25, hein, c'est ce qu'on appelle la plage définie par la Réserve fédérale, et on montrait entre 0,75 et 1%. Alors, moi, je mets quand même beaucoup de bémols là-dessus, parce qu'en général, c'est pas très sympa pour moi de dire ça, mais en général, les marchés se trompent tout le temps hein, sur les anticipations de hausse de taux. En général, quand ils anticipent un certain nombre de hausses de taux au début d'année, c'est jamais le scénario qui se manifeste. Je pense qu'on va avoir une année qui va manifester. C'est pour ça que je mentionnais le terme pivot, c'est-à-dire que va y avoir, je pense, énormément de tournants dans cette année, et je ne serais pas du tout étonné qu'en fait, effectivement, on puisse avoir une hausse de taux au premier semestre aux États-Unis parce qu'on a une pression politique aussi très très forte autour de l'inflation. Mais quand on regarde les indicateurs très avancés d'inflation, hein, sur par exemple les directeurs d'achat ou sur certaines matières premières aux États-Unis, on s'aperçoit que c'est plutôt en train de baisser hein, depuis quelques semaines. Et donc, probablement que la pression inflationniste réelle sur l'économie va probablement baisser, ce qui est assez logique parce que on a la mémoire courte et c'est très très bien pour notre cerveau, mais on a oublié qu'au premier trimestre de 2021, on avait des restrictions extrêmement fortes dans toutes les économies. Hein. On avait des couvre-feux, on avait des secteurs entiers qui étaient fermés. Ce n'est qu'au deuxième trimestre qu'on a véritablement commencé à vacciner et à retrouver une vie normale. Et donc ça veut dire que le point de comparaison un peu pérenne va être au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021. Le point au premier trimestre, il reste encore extrêmement, extrêmement difficile à interpréter. Donc on pourrait avoir plusieurs tournants dans cette année. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on vient de dire sur l'immobilier aussi, je pense que, pour rejoindre ce qu'on dit aussi sur les marchés, il y aura de plus en plus une prime à la qualité. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'en immobilier on connaît bien, c'est-à-dire le prix de la rareté. C'est-à-dire qu'un des fondamentaux forts du marché de l'immobilier, c'est justement qu'il y a une rareté de la base d'immobilier de qualité, parce qu'effectivement, on sait qu'on ne construit pas énormément et puis que tout le monde veut vivre à peu près dans les mêmes endroits, ça peut se déplacer, mais on n'a pas une offre qui soit extensible à l'infini. Et on retrouve un peu ça aujourd'hui, je pense, sur ces dernières semaines et puis cette année sur les marchés. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement de paradigme très fort avec un peu plus d'inflation. Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner les supports d'investissement capables de bien se comporter dans ce nouveau contexte. Et là-dedans, tous les effets effectivement de qualité, de rareté, d'aller vers quelque chose de solide qui donne de la visibilité dans un environnement qui en manque, va être quand même très très important. Et ça va être intéressant à suivre parce que finalement, alors c'est le paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'en 2020 et en 2021, surtout en 2020 d'ailleurs, c'était simple. Hein, c'est-à-dire qu'on regardait les fermetures de l'économie, on regardait les soutiens des banques centrales d'un côté et les soutiens des États de l'autre, on faisait la petite équation, et si c'était positif, on savait que les marchés allaient monter. Donc ça se passait extrêmement bien. Toutes les sociétés de gestion et tous les gérants ont fait des super années en 2020. 2021, ça a été un peu compliqué, il y a eu beaucoup de rotations, mais globalement, ça s'est quand même très bien passé. On vient de parler d'une hausse, la plus forte hausse depuis 30 ans, quand même, sur le marché français. C'est, bon, on oublie. Hein. On fait mieux que le S&P 500, on fait mieux que le marché américain. C'est quand même assez rare, donc c'est formidable. Mais là, ça va devenir à la fois plus compliqué, et puis voilà, prime à la qualité, prime à la rareté. Donc je pense que tous les actifs vont se recorréler d'une certaine façon sur ces éléments-là. Ça va être intéressant, sûr.
On va suivre ça justement. Où investir en 2022? C'est le thème de cette émission d'entrée. Je vous propose de faire une première pause musicale. On se retrouve pour savoir dans un instant avec nos experts où bien investir pour cette année 2022.
De New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour, mais bon, vous voyez. Mais après l'orage avec des bières, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle.
Et on vient d'écouter Angèle sur Radio Patrimoine Bruxelles, je t'aime.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On est toujours en compagnie de Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Finance, Sandrine Allonier, directrice des études Vous Financez, le meilleur de l'immobilier et des marchés financiers pour ce début d'année. Sandrine, vous avez dit tout à l'heure justement que les conditions allaient peut-être se durcir si on était à la recherche d'un bien immobilier. Est-ce qu'il y a des solutions, des astuces, des trucs à savoir pour justement mieux présenter son dossier et être dans cette limite là des 35% recommandés par le HSCF?
Oui, parce que tout le monde dit qu'en effet, ça va se durcir cette année, maintenant que ça peut devenir potentiellement des sanctions en cas de non-respect. Mais même les banques, finalement, s'adaptent un petit peu, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, leur intérêt, c'est de prêter. Et on a notamment là des banques qui ont augmenté les revenus qu'elles prenaient en compte. Ça date d'il y a 2 mois, donc elles ont anticipé les mesures comme sanctions potentielles. Et du coup, maintenant, elles prennent en compte 90% des loyers perçus et à venir, alors qu'avant, c'était que 70%. Et pareil pour les revenus variables, elles les prenaient en compte qu'à 50% sur la moyenne des deux ans passés. Et là, maintenant, elles vont jusqu'à 90%. Donc, il y a cette volonté quand même des banques aussi d'accompagner ceux qui veulent acheter. Donc, il faut aussi bien sélectionner les banques qui vont avoir le potentiel, qui n'auront pas encore atteint leur marge de 20% ou qui sont prêtes à faire des petits détours, si je puis dire, pour pouvoir quand même prêter. On a une autre banque qui a dit « Moi, j'étudie tous les dossiers à plus de 35% d'endettement. En revanche, je vais majorer le taux de l'ordre de 0,10 ou 0,20. » 0,20, mais ce qui n'a pas vraiment d'importance quand on est investisseur, puisque de toute façon, on peut déduire les intérêts d'emprunt. Donc, il y a des solutions déjà qui existent au sein des banques, puisqu'il ne faut pas oublier donc, qu'elles ont cette volonté de prêter. Elles ne se servent pas du tout de ces recommandations pour brider les emprunteurs. Et après, il y a aussi donc, des solutions qui existent. Le problème, c'est que quand on veut investir, on a déjà souvent sa résidence principale. On peut avoir un crédit auto, un crédit conso. On peut avoir fait des travaux d'aménagement. Et du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est de la consolidation patrimoniale. On va racheter tous les crédits existants. Par exemple, il ne va rester que 10 ans sur la résidence principale. Et on va pouvoir rallonger ses crédits sur 20 ans. Comme les taux sont extrêmement bas, voilà, de toute façon, on a tout intérêt à s'endetter. Et quand même, l'immobilier, ça reste quand même le seul placement où on peut vous prêter pour investir et sur lequel on peut profiter à 100% de l'effet levier du crédit. Donc, on a tout intérêt quand même à rallonger, si je puis dire, la durée de son crédit. Et dans ces cas-là, on peut faire un nouvel investissement puisque les 400 euros, 500 euros par mois dégagés vont pouvoir redonner de la capacité d'emprunt. Donc il y a ces solutions-là notamment qui permettent d'investir. Et puis on peut avoir d'autres solutions, d'autres montages, comme par exemple en faisant une SCI à l'IS, où là on ne va pas être tributaire des recommandations. On n'entre pas dans le spectre des recommandations dues au conseil. Donc ça aussi, ça peut être une solution.
Donc une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est une société finalement qui vit sa vie, qui ne rentre pas dans le patrimoine. Et donc on sort de ces fameux critères.
Tout à fait. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des montages
c'est compliqué
qu'on peut faire,
avec,
le problème, c'est que toutes les banques ne financent pas les SCI. Donc c'est ça qui est compliqué. Il faut trouver la bonne banque, mais on travaille avec des banques spécialisées qui peuvent, en effet, faire ce type de financement. Donc ça peut être une solution aussi. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. En revanche, si on veut acheter, il faut le faire en ayant conscience que les prix sont peut-être un peu surévalués, notamment dans certaines villes. Et aussi, les prix...
Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que ça baisse ?
Alors non, on sait très bien que l'attente, c'est jamais la bonne solution, puisqu'on va peut-être attendre que ça baisse, mais les taux pourraient remonter. C'est juste bien choisir et ne pas investir à tout prix. Voilà, on en parlait pendant la pause. Il faut bien choisir ses placements, des placements qui nous ressemblent. C'est pareil pour l'immobilier. Il faut bien choisir son bien immobilier. N'allez pas acheter un bien dans le neuf, un Pinel dans une zone dans laquelle vous n'avez jamais été. Si vous avez plus de sensibilité, d'acheter un bien ancien dans un cœur de ville. Alors certes, ce ne sera pas les mêmes avantages fiscaux, mais au niveau peut-être de la rentabilité aussi, le bien est bien choisi. Voilà, il faut prendre le temps pour faire le bon investissement, ne pas se décourager. Ça peut être un peu un parcours semé d'embûches, mais voilà, bien choisir son bien pour ne pas risquer, bien évidemment, sûr, de perdre et pas avoir que la possibilité de plus-value.
Exactement. Et c'est un peu pareil, finalement, en finance. Alors, on livre les coulisses de ce qui se passe pendant la pub, parce que les gens continuent à discuter.
On est quand même plus sur la plus-value, par contre.
La question est intéressante. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, le marché financier, se sont très bien comportés. Ouais. On nous dit, en plus, que ça va être peut-être plus compliqué, que ça va être plus turbulent. On parle de ton ondulé. Sandrine nous demandait, est-ce que c'est le moment d'investir ? Mais j'aurais la même question pour l'immobilier. L'immobilier aussi, c'est au plus haut. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que les Français ont de l'argent. On sait qu'on a mis un bas de laine qui s'est garni, nous dit-on, près de 200 milliards d'euros. Donc on le sent, les crédits sont là, les banques sont prêtes à financer. Bref, il n'y a qu'à Faucon. Mais voilà, les marchés financiers, c'est première question pour vous. Comment on investit en 2022 alors qu'on est déjà qu'à 40 au record, à 7200 points ?
Alors, si on regarde par exemple les marchés financiers depuis 10 ans, depuis la fin de la grande crise, depuis 2011 en fait, il y a eu, je pense, une vingtaine ou une trentaine d'occasions où on se disait, c'est sûr, là, il faut vendre. Parce qu'il y a toujours effectivement un événement où on se dit, oh là là, c'est vraiment le moment où les marchés vont se retourner. Finalement, ça s'est jamais passé. Pourquoi ? Parce qu'on a globalement une économie qui se porte bien. On a des entreprises qui savent s'adapter et on a des soutiens qui restent malgré tout souvent très, très importants de la part des banques centrales et de la part des États. Et quand ces soutiens se retirent, ça ne dure pas très très longtemps. C'est-à-dire que le dernier épisode un peu compliqué, c'était 2018, où 2018, il y avait une pression très forte de la part de Donald Trump sur le président de la Réserve fédérale pour dire qu'il faut absolument de nouveau soutenir l'économie. Et à la fin, le président de la Réserve fédérale, il s'est couché. C'est-à-dire qu'il a dit « Ok, je vais de nouveau soutenir l'économie parce que mon actionnaire, finalement, me le demande ». Et on sait que le volume de crédit, et là je rejoins tout ce qui vient d'être dit sur l'immobilier, on a globalement dans l'économie mondiale un volume de crédit qui a énormément monté. Aujourd'hui, on est à 360% de PIB sur la totalité des crédits dans le monde. On est sur des volumes historiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas supporter
C'est-à-dire que une hausse de taux d'intérêt. Le monde est endetté à trois fois ce qu'il produit.
Trois fois et demi, exactement. Et de toute manière, ça veut dire qu'on ne peut pas supporter une hausse trop forte, et les États en premier lieu ne peuvent pas supporter une hausse trop forte des coûts de financement. Donc les coûts globalement de financement resteront bas. La question maintenant, c'est effectivement, compte tenu du niveau de valorisation qui est important, il faut arriver à se projeter.
Qu'est-ce que j'achète ?
Il faut arriver à se projeter. Dans un environnement qui sera un peu plus inflationniste, aller sur des instruments type obligation, donc purement de taux, c'est pas une très très bonne idée. Hein, parce que je rappelle que le terme anglais pour définir une obligation, c'est fixed income.
C'est du
revenu fixe. Quand vous êtes dans un environnement inflationniste, il faut surtout pas avoir de revenu fixe, ouais. En tout cas le moins possible. Pour stabiliser éventuellement un portefeuille, pourquoi pas, si jamais on retournait dans un environnement déflationniste, pourquoi pas. Hein, donc en avoir un peu, c'est toujours pas mal. Mais en avoir beaucoup et miser là-dessus pour faire effectivement une performance, c'est probablement pas une bonne idée. La performance, elle se fait par les actions. Elle se fait par ceux qui sont aux prises avec l'économie réelle et qui sont capables de générer des profits et les générer de plus
en
plus.
Donc on achète plutôt des actions.
Moi, ce que j'aime bien, en fait, il y a une zone sur laquelle, malgré des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles, sur lesquels je suis quand même très peu confortable, c'est la zone chinoise, parce qu'effectivement, on a quand même une approche politique qui est quand même très, très difficile. Alors, tactiquement, pourquoi pas? Ceux qui veulent effectivement faire des coups tactiques, pourquoi pas? Mais il faut être véritablement confortable, on en parlait avec ça. Moi, j'ai un petit peu de mal avec des gens qui ne veulent pas que les investisseurs privés, globalement, fassent de l'argent. Donc ça,
On l'a vu avec les géants de la tech, hein, là, qui
voilà, c'est quand même très, très compliqué. En revanche, en Europe, on est un peu en retard par rapport au cycle. La Banque Centrale Européenne va être toujours quand même très, très accommodante. Le dollar est plutôt en train de remonter face à l'euro. C'est plutôt favorable aux exportateurs européens. Donc moi, je suis plutôt favorable sur le marché européen. Des outils comme les obligations convertibles, hein, qui permettent à la fois d'avoir un outil pour limiter la volatilité et quand même une indexation sur le marché actions, en particulier sur les sociétés d'hypercroissance qui se financent beaucoup par des obligations convertibles pour éviter de se faire trop, trop diluer dans le cadre d'augmentation de capital. Ça peut être un outil qui est intéressant. Et puis évidemment, continuer à avoir des actions internationales, des actions américaines. Les actions de la technologie, il faut pas les balancer. Hein. Moi, j'entends beaucoup de choses dessus. C'est là où on va quand même avoir de la croissance bénéficiaire. Donc,
C'est intéressant. Cette semaine, hein, le 3 janvier, première journée de bourse, Apple donc, a dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation. L'action a grimpé, attention Sandrine, vous auriez dû en acheter il y a un petit moment, en 20 ans de 45 000%. Ça veut dire 1 000 dollars en 2020 sont devenus 450 000 dollars.
C'est le temple des regrets, la bourse, c'est toujours le temple des regrets.
Il ne faut jamais regarder dans le rétroviseur.
L'immobilier aussi d'ailleurs.
L'immobilier c'était pas mal, mais là 45 000 c'est pas mal. En plus on se dit rétrospectivement, on l'a tous vu, l'iPhone c'était évident, mais on n'en a pas acheté. Bon bref, Microsoft est juste derrière, 2 500 milliards. On atteint des chiffres quand même astronomiques. Oui. Tesla, n'en parlons pas. Alors que bon, après ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'il y a 4, 5, 6 sociétés comme ça qui ont tiré la côte. Est-ce que c'est pas l'arbre aussi qui cache un peu la forêt? Est-ce qu'on n'aura pas une année plus compliquée?
En fait, l'année dernière, elles n'ont pas tant caché la forêt.
Apple, 36%.
Alors, Apple, oui, mais quand vous regardez la performance d'Amazon, la performance de Facebook, qui a été en tout l'ondulé, quand vous regardez ce qu'on appelle, dans le jargon, le S&P 494, donc vous enlevez les six grandes...
Les
six stars, vous avez une progression qui est, alors effectivement, moins importante, mais qui est de l'ordre de 25% contre 29% pour le S&P 500. Alors effectivement, vous aviez pas les 29%, mais vous aviez juste 4% de moins. Donc finalement, l'écart n'a pas été très important. En revanche, à l'intérieur, là, vous avez effectivement des écarts de performance. Et là, je ne parle pas des GAFA. Vous avez des écarts de performance très, très importants entre les sociétés qui ont réussi à performer et les sociétés qui, effectivement, ont beaucoup souffert des incertitudes, des changements de pieds monétaires, budgétaires, etc. Donc, en fait, dans ces environnements-là, il faut quand même avoir une approche quand même très diversifiée, très large. Regardez les très grandes tendances, les tendances longues, on en parlait pendant la pause, regardez véritablement les tendances longues qui bénéficient de soutiens qui sont structurels, hein, quand vous investissez effectivement dans des... même s'il y a des à-coups, hein, mais dans des actions liées à la transition climatique, dans des actions liées à la santé, liées au mieux vivre globalement, vous avez, liées au sport... Vous avez des tendances qui sont quand même très très favorables, et ça, être investi sur ces supports-là, sur des grands supports qui investissent sur ces tendances-là, c'est une bonne chose. Ouais. Je rappelle aussi qu'il est beaucoup plus facile, paradoxalement, d'investir dans un marché haussier que dans un marché baissier. C'est-à-dire que dans un marché haussier, vous avez de bonnes chances de gagner de l'argent assez rapidement. Et c'est toujours très sympa de voir dans les lignes de son portefeuille du vert s'afficher assez rapidement à côté. Alors que si vous investissez dans un marché baissier, vous investissez jamais au plus bas. Donc il faut être très, très discipliné. Ça peut être très rentable, mais il faut être très discipliné et très fort sur ses convictions pour dire c'est pas grave, j'ai pas investi au plus bas, ça baisse de 10, 20, 30%. Hein, n'oublions pas qu'un marché qui a perdu, qui perd, enfin, une action qui perd 90% est une action qui perd 80%, puis qui perd 50% de sa valeur. Hein. Je rappelle juste en termes de, voilà, d'échelle. Donc il faut être prêt à encaisser les fins de marché baissier. C'est souvent beaucoup plus difficile. Là, on a la chance d'être dans un marché puissamment haussier. Il faut encore en profiter.
On peut y aller.
Mais là aussi, je rejoins ce qui a été dit sur l'immobilier. Il faut y aller avec mesure. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas investir en disant de toute façon, il faut que j'investisse, il faut que j'y aille. C'est la meilleure façon de faire des bêtises.
Alors, on peut acheter, on a dit, un peu d'actions, un peu d'obligations converties. Pourquoi pas? En tout cas, on peut choisir la technique, le luxe, peut-être des tendances émergentes. C'est plus compliqué, Sandrine, en immobilier, parce qu'on ne peut pas comme ça acheter un panier de biens. Enfin, il y a des
SCPI,
les supports, tout se fait.
Est-ce que, alors, même chose, est-ce que justement en 2022 il vaut mieux aller sur ce qu'on appelle la pierre papier, société civile de placement immobilier qui ont un panel de biens, ou est-ce qu'on peut quand même faire son investissement en direct? Quelles vont être les bonnes astuces, s'il y en a, pour faire ce bon investissement immobilier en 2022?
Alors, les SCPI ont été un peu secouées durant l'année 2021, et enfin, surtout l'année 2020.
Elles nous ont tous juré que non, que tout allait bien.
Parce qu'il y avait beaucoup de bureaux, de commerces, et comme il y a quand même eu certaines fermetures de boutiques, donc... Ça peut être un peu compliqué, mais comme le risque est très dilué, mais bon, ça peut être un choix, mais c'est pas des investissements de la même. Déjà, on n'est pas sur le même horizon. Mmh. On est sur un horizon beaucoup plus long terme sur les SCPI. Et puis également, voilà, c'est pas le même type d'investissement. Je pense que la priorité ou le premier conseil, ça peut être d'investir dans sa résidence principale. Mais alors là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord non plus, parce que si on veut investir dans une grande ville, c'est vrai que ça va gréver toute la capacité d'emprunt, puisque si on achète par exemple à Paris, il va falloir faire un gros crédit pour pouvoir acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Donc on voit de plus en plus de gens...
Alors on est obligé de vendre son PEA d'ailleurs.
Mais non, on fait un effet de levier sur le PEA.
On voit de plus en plus de gens qui restent locataires dans les grandes villes, aussi pour plus de flexibilité en cas justement de déménagement, pour ne pas perdre les frais de notaire, et qui vont investir donc dans d'autres villes. Donc ça peut être aussi un choix d'acheter 2-3 appartements à côté. Ça, je crois que c'est quand même très très personnel. Hein. D'autres qui vont acheter leur résidence secondaire et qui vont la louer, ou qui vont faire du LMNP. Donc après, ce qu'il faut regarder quand même, c'est la fiscalité, malheureusement. Parce que quand on achète, on va être très imposé sur les loyers quand on achète dans l'ancien. Et puis également, on sera imposé sur la plus-value aussi. Donc... c'est pareil, ça dépend de son horizon de placement, ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que ça peut rester encore le moment de profiter de l'effet de levier et puis surtout de préparer sa retraite, puisque là, on a quand même un discours assez court-termiste. Mais voilà, il ne faut pas oublier que l'immobilier permettra de dégager des revenus suffisants pour une retraite sur laquelle on n'a pas vraiment de visibilité. Donc ça peut être aussi un bon horizon.
Bon, évidemment, on parle de 2022, mais c'est vrai que ce soit, on le rappelle, hein, pour la bourse comme pour l'immobilier, on est quand même sur des temps longs. Oui. C'est pas parce qu'on fait une très bonne performance ou qu'on a une ville qui va monter de X% une année que ça va pas diminuer après. Les prix, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu déboussolant, ces prix de l'immobilier, parce que on parlait d'Apple à l'instant, mais les prix de l'immobilier, il y a de quoi aussi avoir des regrets. Oui. Ça ne fait que monter et on oublie finalement qu'il peut aussi y avoir des crises. C'est vrai que depuis 20 ans, il n'y en a pas eu.
Mais vous avez raison, et j'y pensais quand on parlait de ça tout à l'heure, puisqu'en fait, il y a eu quelques à-coups hein, dans les prix de l'immobilier, notamment à Paris, où à chaque fois on s'est dit les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, ce qu'on emploie d'habitude en bourse, ça ne pourra plus continuer à monter. Eh bien, ça descendait un petit peu, et puis ça reprenait de plus belle. Et puis, on a aussi des effets. Voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Par exemple, on ne s'attendait pas du tout à l'essor de ces villes moyennes. C'est vrai que depuis 3-4 ans, on avait des villes comme Lyon et comme Bordeaux qui avaient beaucoup monté. Nantes aussi, par l'attraction justement des Parisiens. Donc on commence à avoir un peu plus, comme sur le marché allemand, finalement, plusieurs grandes villes qui commencent
à
monter.
Grandes métropoles.
Voilà, on est vraiment plus sur un marché en peau de léopard et non pas seulement le centre Paris qui concentre toutes les tensions inflationnistes. Et du coup, comme l'intérêt s'est reporté sur ces autres villes moyennes, eh ben, à l'inverse, ça commence à baisser à Bordeaux, ça se stabilise à Lyon, et à Paris, ça n'augmente plus.
Ouais. Et ça, donc, ça, mais ça grimpe en flèche à Brest, par exemple.
Voilà, Brest, ça décolle, donc qui aurait pu le dire. Donc c'est pareil, il faut pas vraiment se fier là-dessus, puisqu'on peut avoir un effet rattrapage, en effet, de ces villes moyennes, et la pause parisienne ne peut être que de courte durée. Là, si on regarde aussi un peu les indicateurs avancés, si je puis dire, même si on a moins ça en immobilier, mais on nous signale déjà le retour d'investisseurs étrangers qui viennent de nouveau acheter à Paris. Et ça aussi, ça pourrait à nouveau nourrir la hausse des prix. Là, on a été un petit peu dans notre bulle, en cercle vraiment, dans une bulle fermée. Alors, je n'aime pas parler de bulle, surtout en immobilier, mais voilà, on était vraiment un peu en entre-soi. Donc, c'est vraiment les Français qui ont fait le marché immobilier. Là, les étrangers reviennent. Ça peut de nouveau générer des tensions sur Paris. Donc, faut pas dire non plus que c'est trop tard pour être rentré, heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais acheté depuis nos parents, en se disant c'est eux qui ont pris toutes les plus-values. Et bien pour autant, être rentré en 2008, ce qui est mon cas, quand les taux étaient élevés et que le marché n'était pas du tout propice, et bien voilà, les prix ont quand même continué après à réaugmenter.
Et c'est tant mieux. Alors on va avancer un petit peu, on va sauter la petite pause musicale, on va écouter tout de suite un nouveau business, c'est Arthur. Est-ce que vous connaissez ces plateformes? C'est Grisby, Richie, Yomoni, Nalo, Ismo, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Elles ciblent en particulier les 18-35 ans, c'est une clientèle qui est souvent délaissée par les banques, et on va faire la connaissance justement de Arthur avec son fondateur Vania Mareuse. On l'écoute tout de suite.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Nous sommes donc en compagnie de Vania Mareuse. Bonjour, monsieur Mareuse.
Bonjour.
Président fondateur d'Arthur, une solution qui vise à aider les épargnants, ces nouveaux épargnants qui sont nombreux à mieux piloter leur épargne. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre solution Arthur ?
Avec plaisir. Alors, on est arrivé, nous on a une grande expérience dans l'asset management depuis des décennies, et on s'est rendu compte que la partie du retail, la partie des gens qui avaient moins de 200 000 euros, qui représente 90 ou 95% de l'épargne en France, était très mal gérée, ou en tout cas très mal conseillée. Pourquoi ? Parce que soit les banques s'en intéressent pas beaucoup et vendent des produits dans lesquels ils ont beaucoup de marge, soit les professionnels s'intéressent pas trop à des comptes qui ne sont pas trop importants, préfèrent des comptes plus importants parce qu'ils travaillent sur l'AUM, c'est-à-dire sur l'asset under management. Et donc, nous, on s'est dit, on va casser ça et on va faire ça par un système d'abonnement. Ce qui permettra à l'internaute de l'épargnant d'avoir son patrimoine géré sous forme d'abonnement, qu'il ait 2000 euros ou qu'il ait 100 000 euros. C'est pareil, c'est 6,99, c'est tous les mois, c'est la même chose. Voilà.
D'accord, donc ça paraît extrêmement bas comme tarification, du coup, par rapport, c'est vrai, même aux banques classiques. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre là pour ces moins de 7 euros par mois ?
Alors, vous avez déjà l'agrégation de tous vos comptes, l'agrégation de tous vos assurances vie, l'agrégation de tout votre collection, votre immobilier, votre collection de sneakers, n'importe quoi. Vous pouvez l'agréger sur votre plateforme, et donc vous avez en visu tous les supports dans lesquels vous avez investi. Alors ça, c'est une première chose, donc ça c'est déjà important. Ça c'est gratuit, vous pouvez le faire gratuitement, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement pour ça. Et ensuite de ça, si vous placez au-dessus de 2000 euros, parce qu'en dessous de 2000 c'est gratuit, si vous placez au-dessus de 2000 euros dans un contrat d'assurance vie qui est placé chez Apicil, troisième assureur en France, nous vous le gérons contre 6,99. C'est effectivement très intéressant, surtout pour des gens qui ont des patrimoines de 10-12 000 euros à placer, puisqu'effectivement c'est beaucoup moins cher que n'importe quel autre, soit des robo-advisors, soit des sociétés de gestion. Et bien sûr, on le place avec des techniques que l'on a l'habitude de travailler, parce qu'on travaille depuis 20 ans là-dedans. Donc voilà, ça c'est ça la base du 6,99, ce que vous obtenez. Et en plus, vous allez obtenir d'autres choses, puisque petit à petit, on rajoute des produits, on rajoute du PER, on rajoute des CPI, on rajoute rajoutent d'autres choses et bientôt des stablecoins. Et donc, ça va vous permettre d'avoir accès à des tas d'autres produits au fur et à mesure de l'évolution. Et bien sûr, vous avez en dernier un conseil personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez appeler un de nos conseillers qui, va vous renseigner sur la meilleure façon par rapport à votre patrimoine, puisqu'on l'a devant les yeux, puisque vous l'avez engagé. Et ça nous permet donc de bien vous aider et vous conseiller.
Vanier Maros, 6,99€ par mois, c'est vrai que ça paraît assez révolutionnaire là, pour gérer l'ensemble de son patrimoine. En plus, en ayant à disposition un conseiller qu'on peut donc contacter par téléphone, comment vous faites pour gagner de l'argent? Quel est le business model d'Arthur?
Alors, le business model d'Arthur, il est très simple. D'abord, il y a les 6,99€. Ensuite, ça, c'est pour l'assurance vie. Donc ça, il y a pas d'autres frais, il y a rien d'autre, sauf les frais de l'assureur, mais ça, c'est pas pour nous. Et ensuite, c'est commun à tout le monde. Et ensuite, vous avez dans les autres produits que l'on propose, par exemple les stablecoins qu'on va proposer d'ici la fin du mois. Et bien là, par contre, on va rentrer sur un process plus régulier, qui est celui du pourcentage. Pourquoi ? Parce que les partenaires avec lesquels on travaille ne peuvent pas travailler sur une forme de d'abonnement. Donc là, on va travailler sur une forme de pourcentage. Donc, si vous voulez, le business model, il est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie gestion, assurance vie, abonnement, puis la partie certains autres produits comme le stablecoin, qui lui est en pourcentage.
Très bien. Bon, pour tester Arthur, A-R-T-U-R, site internet arthur.ai, tout le monde peut y accéder. Je crois qu'il y a une version gratuite, c'est ça? Et une version payante ensuite, c'est-à-dire à 6,99€, au-dessus de 2 000€ placés.
Absolument, exactement. Vous pouvez même ne pas placer d'argent du tout, si vous voulez, faire que l'agrégation de vos comptes, et vous avez accès gratuitement totalement à l'agrégation de vos comptes. Si vous voulez placer minimum 500€ jusqu'à 2 000€ chez notre assureur vie, eh bien, c'est gratuit, on vous gère votre argent suivant votre KYC et suivant le risque, le profil du risque, et au-dessus de 2 000, c'est effectivement payant.
Merci Vanier Maros, je rappelle que vous êtes le patron fondateur d'Arthur. Voilà une nouvelle solution assez révolutionnaire pour gérer son épargne. Merci et à très bientôt sur l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Voilà pour l'interview de Vanier Maros, le patron fondateur de Arthur. Il nous reste quelques minutes, chers invités. On va se poser la question juste en quelques secondes, Wilfried, de quand même cette année 2022. C'est aussi une élection qui arrive d'ici quelques mois, 4 mois exactement. Est-ce que ça peut changer la donne sur les marchés?
Il y a deux grandes élections en 2022. Il y a les midterms américains et effectivement l'élection présidentielle française. Alors, sur les midterms américains, on verra. Depuis 1934, il n'y a eu que 3 occurrences où la majorité a gagné des voix au Sénat. Uniquement 3. Donc il est probable que ce ne soit pas le cas et que les marchés réagissent bien parce qu'ils n'aiment pas quand il y a des trop gros mouvements trop favorables au pouvoir en place. Donc ça se passera pas mal. Pour l'élection présidentielle française, je pense que ce qui va compter, c'est un peu comme en 2017. Est-ce que l'élection peut mettre au pouvoir une majorité qui remette en cause la structure dans laquelle les marchés évoluent? C'est-à-dire la monnaie unique, l'Union européenne et l'espèce d'environnement rassurant, à la fois juridique, monétaire, financier, dans lequel les marchés évoluent. Si ce n'est pas le cas, quel que soit le vainqueur, ce n'est pas le sujet. Si en revanche, on s'aperçoit dans les semaines précédentes que...
Un candidat Frexit.
Voilà, que dans les semaines précédentes, comme en 2017, à un moment donné, il y avait eu des sondages disant qu'on était dans la marge d'erreur pour avoir, pourquoi pas, un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, auquel cas les marchés avaient effectivement pris peur en disant là, on était... À l'époque, en tout cas, sur 2 candidats, là maintenant, c'est peut-être un peu moins clair, mais sur 2 candidats qui pourraient remettre en cause la construction européenne, la monnaie unique. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de volatilité, y compris sur la dette française, sur les dettes d'État, et les marchés avaient mal réagi. Si ce n'est pas le cas, ce serait effectivement un non-sujet. Donc, on verra au fur et à mesure des déroulés, en particulier au mois de février, c'est souvent là où ça se cristallise, si c'est un sujet ou si, comme souvent, ça n'en est pas.
Sandrine, même question pour l'immobilier. Est-ce que ça peut avoir une influence, cette élection présidentielle qui arrive?
Je dirais que si on a un résultat qui est trop, voilà, trop différent de ce qu'on a actuellement, ça pourrait générer de l'attentisme chez les acheteurs ou chez les investisseurs qui pourraient anticiper un changement sur la fiscalité, par exemple, ou sur la taxation. Ça pourrait, mais ce sera plutôt après le résultat. On a bien vu sur les dernières années que finalement, avant, ça n'a pas trop d'effet. Les gens ne vont pas se précipiter pour autant, mais c'est plus après que ça pourrait... Que ça pourrait changer les choses si vraiment on a un résultat un peu inattendu. Mais bon, comme là, vraiment, je crois qu'on n'a pas du tout de visibilité. Voilà, donc je reviendrai avec plaisir dans l'émission pour parler de l'impact du résultat de l'élection présidentielle.
Eh bien voilà, rendez-vous donc en mai. Il fera un petit peu meilleur. On espère que les variants Covid, etc. seront dispersés, qu'on sera tous devenus hyper résistants. En tout cas, merci à Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Finance, d'avoir participé à cette émission. Merci également, Sandrine Alonier. Je rappelle que vous êtes directrice des études. Vous financez l'Hebdo Patrimoine. C'est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci également à David Payan qui a réalisé cette émission. Très bonne semaine à tous, à très bientôt.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.